Je vous invite à retourner avec moi dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Philippiens. On va continuer l'étude qu'on a commencée depuis quelques semaines. L'Épître aux Philippiens, écrit par l'apôtre Paul. On va lire les versets ce matin, les versets 18 à 26. Chapitre 1, versets 18 à 26. Je vous invite à vérifier si vos GSM sont bien fermés. Alors, peu importe que leurs intentions soient mauvaises ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé, dit l'apôtre Paul, et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir, car je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'aide apportée par l'Esprit de Jésus-Christ. Deux choses, on l'a vu la semaine passée, qui faisaient la joie de l'apôtre Paul, ici. Eh bien, c'était que les frères et sœurs en Jésus-Christ, les chrétiens de l'Église de Philippe, priaient pour lui. Et ensuite de ça, eh bien, l'aide que le Saint-Esprit apportait à l'apôtre Paul. Donc, Paul, en tant que chrétien né de nouveau, il savait très bien que dans le fin fond de sa cellule, enchaîné 24 heures sur 24, il savait qu'il n'était jamais seul, jamais seul. L'Esprit de Jésus-Christ était avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous réjouir en tant que chrétien. On n'est jamais seul. Un des gros problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est la solitude. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont fatigués de se sentir seuls, parce qu'ils sont fatigués de se voir délaissés, mis de côté, parce qu'ils ne sont pas nécessairement aussi qualifiés que les autres. Aujourd'hui, vous savez, c'est l'élite qui réussit. Les autres, eh bien, ce n'est rien, quoi. Et les gens sont découragés. Mais Paul, ici, c'est un chrétien qui est nouveau. C'est quelqu'un qui a fait cette expérience intime et personnelle avec Jésus-Christ. Il l'a rencontré. Il l'a rencontré sur la route de Damas. Et Dieu a transformé sa vie. Et à partir de là, il sait que Christ est présent dans sa vie. Et il dit, écoutez, ce qui fait le sujet de ma joie, c'est que je sais que vous priez pour moi, mais aussi je ne suis pas seul. Vous priez pour moi à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans ma cellule, enchaîné 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui est avec moi, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, le Consolateur, celui qui m'encourage, celui qui me fortifie. Et il continue ici. En cela, comme je l'attends et l'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux, au contraire. Maintenant, comme toujours, je serai plein d'assurance et ainsi je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant. Alors, frères et sœurs, c'est pas un millionnaire qui est en train de parler. C'est quelqu'un qui est coincé dans une prison. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce de quoi sera fait son avenir. Sera-t-il libéré? Sera-t-il condamné à mort? Il ne le sait pas. Il doit comparaître devant César. Et il continue ici. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si en continuant une œuvre utile, mais si en continuant à vivre, je peux encore accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je me sentirai des deux côtés. Je désire quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Et ça, c'est une chose qui empêchait Paul d'avoir peur face à l'avenir. Il avait la certitude que quand il mourait, il savait où il était. Il avait la certitude que Jésus-Christ l'attendait au ciel. C'en était une certitude dans son cœur et j'espère que c'est une conviction pour vous ce matin. Parce que vous allez voir que ça change complètement toute notre philosophie de vie d'avoir cette certitude que le jour où Dieu nous rappelle à lui, on entre dans la présence de Christ. Pas dans le doute, mais la certitude. Et des gens qui sont certains de leur sort, qui sont certains de leur destinée, peuvent bouleverser le monde dans lequel on vit. Et c'est ce que Dieu a fait à travers l'apôtre Paul. Il continue ici. Mais en continuant à vivre, mais il est beaucoup plus important à cause de vous que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai. Donc, une certitude maintenant, c'est que Dieu ne l'appellera pas tout de suite. Je sais que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Quel encourageur, l'apôtre Paul! Quel encourageur! Je suis en prison, je suis convaincu qu'écoutez, mon temps n'est pas encore venu. Dieu me l'a confirmé par son esprit. Et j'ai hâte de sortir. Pourquoi? Parce que l'enseignement que je vais vous donner va vous faire progresser dans votre joie, mais dans votre foi. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Et aussi vous apporter la joie. La joie. Parce que je vais venir vous encourager. Je vais venir vous encourager à persévérer dans votre foi, à persévérer dans l'annonce de l'Évangile. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi les chrétiens souvent sont malheureux? Parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas l'occasion de pratiquer. Et quand on a l'occasion de pratiquer, on voit Dieu faire des miracles. On voit les promesses de Dieu s'accomplir. Il est impossible de voir Dieu accomplir ses promesses dans nos vies si on ne met pas en pratique ce qu'il nous donne dans sa parole. Les promesses, c'est pas quelque chose de théorique. Quand on dit « je te promets de te donner ma fille en mariage, de te donner mon garçon en mariage », cette promesse, on la tient et il y a quelque chose qui va se concrétiser à travers un mariage. On va le voir. Mais c'est la même chose ici. Les promesses de Dieu sont certaines. Il suffit d'y croire. Ça, c'était la devise de William Booth, le général de l'armée du salut, le fondateur de l'armée du salut. Un gars qui n'avait pas un niveau intellectuel trop élevé, qui n'avait pas fait l'université, mais c'était un homme, vous savez, ce qui faisait sa force. Il s'était emparé des promesses qu'il y avait dans la parole et il dit, je vais vérifier si Dieu n'est pas menteur, je vais pratiquer ma foi. Pas juste dire, j'ai la foi, je vais aller de l'avant parce que Dieu me dit que quand je fais ça, c'est ça qui va m'arriver, eh bien, je vais le mettre au défi. Et sa devise pour stimuler les soldats, pour stimuler ses officiers dans l'armée du salut, c'était, les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. Et celui qui y croit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en pratique, il va vivre sa vie chrétienne. Le défi dans le monde dans lequel aujourd'hui, c'est de nous donner tellement d'occupations qu'on n'a pas le temps de mettre en pratique notre vie chrétienne. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est pas quelque chose qui est réel pour nous, finalement. Parce qu'elle devient une réalité, la parole, quand on voit Dieu accomplir ses promesses dans nos vies, jour après jour. On dit, Seigneur, t'es vraiment vivant. Écoute, je t'ai prié pour ça, tu m'as répondu. Pourtant, même si j'ai pas été nécessairement spécifique, je t'ai prié pour mon fils, je t'ai prié pour ma fille, je t'ai prié pour mon travail, et Seigneur t'a répondu. Le lendemain, tu as répondu une semaine après, tu as répondu quelques semaines après, mais tu as répondu. Alors, frères et sœurs, vous savez une chose, le Seigneur agit dans la vie des chrétiens uniquement en fonction des prières qui lui sont adressées. Lisez la parole, Dieu agit uniquement en fonction des prières que les chrétiens lui adressent. Si on ne prie pas, on ne peut pas voir Dieu agir dans nos vies. Amen. Regardez l'Épître aux Philippiens, Paul s'est rempli de prières. Je prie mon Dieu pour que vous persévériez dans votre foi, pour que vous continuiez à annoncer l'Évangile. Pourquoi Paul y prie comme ça? Parce que ça l'a stimulé dans sa vie chrétienne. Il sait qu'il va avoir des persécutions. Il sait qu'il va être l'objet de moqueries. Mais il sait une chose, il y a une promesse dans la parole. Tu veux annoncer l'Évangile, c'est vrai que tu vas être persécuté, c'est une promesse. Mais je serai à tes côtés jour après jour. Et il n'y a personne qui pourra t'arracher un cheveu de ta tête si moi, je ne le permets pas. Parce que tu œuvres pour l'Évangile. Amen. Ouais. Frères et sœurs, lisez le livre de Néhémie. On a fait une réunion de prière chez notre frère Patrick. Et on a fait une méditation sur Néhémie. Et la tactique du malin, de l'ennemi de nos âmes, la première chose, c'est de nous faire peur. De nous faire peur. Pense à ta maison que tu peux perdre si tu vas en avant pour annoncer l'Évangile ou si tu rends témoignage que tu es chrétien. Pense à tes enfants, ils peuvent être l'objet de moqueries. Pense à ci, pense à ça, pense à ça. Bien, on pense tellement qu'on finit par mourir pensu et on ne fait rien. Et on ne fait rien et on est paralysé. Et tout au long de Néhémie, c'est le combat spirituel de Néhémie qui vit. Non seulement le malin cherche à le décourager à travers des gens de l'extérieur, mais aussi à travers certaines personnes du peuple de Dieu. Et non seulement on cherche à le décourager, mais lui en plus, en tant que leader, il doit encourager ses troupes à continuer à construire le mur de Jérusalem qui a été démoli. Et frères et sœurs, ici on est devant quelqu'un qui a une philosophie de vie incroyable, mais elle est basée sur Jésus-Christ. Et dans ce monde, frères et sœurs, il y a les gagnants et les perdants. Un gagnant, c'est quelqu'un qui a une philosophie positive de la vie, et un perdant, c'est quelqu'un qui vit de manière indigne, qui vit sans aucun but. Je ne sais pas à quel groupe vous appartenez ce matin, mais les versets 19 à 26 ici contiennent les paroles d'une personne qui a une philosophie de vie positive. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont là les paroles de quelqu'un qui est en prison. On l'a vu la semaine passée, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui est enchaîné 24 heures sur 24 et qui est en attente de son procès. sans savoir s'il ne sera pas condamné à mort ou s'il sortira un jour de cette prison. Et à travers ce passage ce matin, frères et sœurs, nous sommes invités à comparer notre philosophie de vie avec celle de Paul. Parce que ce que Dieu veut à travers Jésus-Christ, c'est de nous amener à voir les choses comme Paul le voit. Il n'y a pas juste eu un Paul dans le monde entier. Il y a plusieurs Pauls animés de l'esprit de Paul que Dieu veut susciter, veut lever dans son Église. Amen. Oui. J'espère que ça vous motive ce matin. Je ne suis pas là pour vous montrer que c'est une montagne incroyable. Le Seigneur, il dit, si tu as la foi gros comme un grain de moutarde. Vous savez ce que c'est un grain de moutarde? C'était le grain le plus petit connu à l'époque. Vous pourriez dire à cette montagne, va te jeter dans la mer, elle va y se jeter dans la mer. Bon, le but de Jésus, c'est pas commencer à nous faire des trucs de magie. Mais cette image, elle est très belle. Ça veut dire quoi? Si tu as la foi, si tu crois, il n'y a rien qui te sera impossible. C'est ce que ça veut dire. L'idée de Jésus, c'est pas de dire à cette montagne, dire à cette voiture qu'elle saute 3-4 voitures pour mieux se stationner, que tu vas voir. C'est pas ça, quoi. Mais c'est, écoute, si tu as vraiment la foi. Et il dit dans Marc Jésus, hein, tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oui. Et c'est cette philosophie qui anime l'apôtre Paul. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cet exemple de Paul. Merci pour Paul qui est un encourageur, Seigneur, malgré la situation qu'il vit. Eh bien, il veut stimuler l'Église à aller de l'avant. Il veut rappeler la mission première de l'Église. Il veut, Seigneur, parler aux chrétiens de l'Église de Philippe et leur dire, continuez, poursuivez le travail, car Jésus-Christ est avec vous jour après jour. Continuez parce que des grandes récompenses vous attendent dans les cieux. Seigneur, nous ne voulons pas marcher par les œuvres, mais Seigneur, nous voulons montrer que nous avons une foi réelle en Jésus-Christ en pratiquant les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin afin que nous puissions être à l'écoute de ta parole, Seigneur, que ton esprit puisse pénétrer dans le cœur de chaque personne ici présente ce matin, sans exception, Seigneur, afin que nous puissions sortir dans ce lieu encore grandi avec la certitude, Seigneur, que tu nous as visités. Au nom de Jésus, je te le demande et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Remarquez les mots de l'apôtre Paul ici au verset 20. « Soit par ma vie, soit par ma mort. » Et nous avons ici la clé de ce qui faisait le succès incroyable de l'apôtre Paul. Il n'avait pas peur de la mort. Il en était arrivé à un point où il pouvait dire « La seule chose qui compte, c'est que Christ soit glorifié dans ma vie. » Que je vive ou que je meure, ce n'importe peu, en autant que Christ soit glorifié. Ça, c'était la devise de l'apôtre Paul et ça devrait être notre devise. La gloire de Dieu, je le répète, je l'ai dit à l'étude biblique, je le répète presque une semaine sur deux dans mes messages. La gloire de Dieu, c'est que Dieu manifeste sa présence à travers vous. Y avez-vous pensé? Y avez-vous pensé juste un instant? Que Dieu manifeste sa présence à travers vous. Première chose de la gloire de Dieu. Deuxièmement, que Dieu va manifester sa puissance à travers vous. Dieu va manifester sa puissance. Il va accomplir des miracles, des guérisons, des prodiges à travers ses enfants. Ça, c'est les deux aspects sur trois de la gloire de Dieu. Et Dieu veut manifester le caractère de Christ à travers vous. Ça, c'est la troisième partie de la gloire de Dieu. Vous avez de la difficulté à croire ça ce matin? Mais criez à Dieu, viens au secours de mon incrédulité, parce que c'est biblique ce que je vous dis. Hein. Ce n'est pas Jean Cudon qui l'invente ce matin, c'est biblique. Aux noces de Cana, quand Jésus a changé l'eau en vin, il est écrit que Jésus-Christ manifesta pour la première fois la gloire de Dieu. Dans le tabernacle, quand Dieu descendait, dans le tabernacle, on disait la gloire de Dieu est descendue, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, dans son Église, c'est à travers ses enfants, le caractère de Christ que Dieu veut se manifester. Frères et sœurs, on a trois choses entre les mains qui sont d'une puissance incroyable. Et le monde veut nous freiner dans toutes sortes d'activités à laquelle nous ne sommes pas appelés. Et Paul l'avait très, très bien saisi. La seule chose qui compte pour moi, c'est que Christ soit glorifié dans ma vie. Que je vive ou que je meure, cela m'importe peu en autant que Christ soit glorifié. En autant que je meure ou que je vive, que Christ, peu ce qui m'importe, c'est que Christ soit glorifié. Je ne suis pas convaincu que je lèverais ma main très, très haut ce matin sur cette phrase-là, sur ce verset. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses dans ma vie qui me retiennent. Et Dieu veut que je les abandonne, comme on a entendu à travers une prière ce matin. Paul avait tout abandonné pour Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire abandonner notre travail, ça ne veut pas dire abandonner nos enfants, ça ne veut pas dire abandonner notre famille. Ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Mais j'ai tout abandonné ce que j'aimais quand j'étais dans le monde pour aimer, m'attacher à aimer ce qui se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que Paul veut dire ici. Considérez les résultats positifs qui découlent du fait de ne pas craindre de mourir. Lorsque vous pouvez dire « je n'ai pas peur de la mort », vous êtes libre de vous consacrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Vous êtes indifférent à tout ce qui peut vous arriver. Et troisièmement, vous vous consacrez entièrement à faire la volonté de Dieu. Et pourquoi vous êtes indifférent à tout ce qui peut vous arriver? Simplement pour une chose, vous savez que Dieu a votre vie entre les mains. Et que si vous devez mourir, peu importe que vous pleuriez, peu importe que vous priez, peu importe que vous reniez votre foi, si c'est ce jour-là que Dieu a décidé de vous rappeler à lui, il va vous rappeler à lui. Et Paul l'avait très bien compris dans sa philosophie chrétienne. Je ne peux pas rajouter une seule journée à ma vie si Dieu a décidé que je mourrais telle journée. Je peux faire ce que je veux en prison. Si Dieu a décidé que je vais mourir en prison, je ne peux rien changer. Donc, j'en profite, je glorifie le Seigneur Jésus. Je proclame l'Évangile. Je proclame ce qui fait ma joie. C'est peut-être la seule occasion que les soldats vont entendre parler de Jésus-Christ. Donc, je glorifie le Seigneur. Quel encourageur, l'apôtre Paul. Quelle philosophie de vie. Et le Seigneur Jésus, c'est cette philosophie qu'il veut qu'on aille. Amen. Est-ce que les noms de Nate Saint, Robert, Roger, pardon, Hugh Dorian, Ed McCauley, Peter Fleming et Jim Elliott vous disent quelque chose? Pas pour ceux qui sont nés après 1955, mais avant, oui, peut-être. Ces cinq jeunes gens qui étaient tous âgés de moins de 35 ans se rendirent en Équateur dans le but d'atteindre une tribu indigène, les Oka, qui signifie en français « sauvage ». Un nom qui leur a donné les autres tribus qui vivaient au fond de la forêt tropicale. Personne ne leur avait jamais présenté l'Évangile. Ces cinq missionnaires, tous hautement qualifiés et profondément consacrés à Dieu, commencèrent à prier pour entrer en contact avec ces saints indigènes. En septembre 55, ils survolèrent à basse altitude leur village, jetant un sac contenant des cadeaux pour les indigènes. Et finalement, les Oka prirent les cadeaux et les remplacèrent par de simples cadeaux qu'ils avaient fabriqués, pensant que c'était des dieux qui se promenaient au-dessus. Ils avaient remis des idoles dans les sacs pour adorer ces soi-disant dieux. Et en janvier 56, quelques mois après, les cinq hommes décidèrent que le moment était venu d'entrer en contact avec ces indigènes, avec les Oka. Après avoir beaucoup prié, ils établirent un camp de fortune sur une plage près du fleuve Curaquet. Le 8 janvier 1956, les cinq hommes trouvèrent la mort, transpercés par les lances des indigènes qui ont cru à tort qu'ils étaient venus leur faire du mal. Cette nouvelle fit le tour du monde et choqua beaucoup de gens qui se sont demandé comment des jeunes gens, promis à un brillant avenir, pouvaient être morts de cette façon. Mais lorsqu'on publia quelques années plus tard le journal personnel de Jim Elliott, un des cinq, on découvrit qu'il avait écrit ceci. « On ne peut pas traiter d'idiot quelqu'un qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » C'était la philosophie de l'apôtre Paul. On ne peut pas traiter d'idiot quelqu'un qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder avec lui pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. L'apôtre Paul serait d'accord avec Jim Elliott, une fois que vous avez compris que votre vie ne durera pas éternellement sur la terre, vous êtes libre de vous investir dans une cause encore plus grande que vous-même. Vous abandonnez ce que vous ne pouvez pas garder pour qu'à la fin vous obteniez ce que vous ne pourriez jamais perdre. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire ici dans le texte lorsqu'il dit « soit par ma vie, soit par ma mort ». Regardez le verset 21. « Car Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Et nous avons ici ce qui poussait Paul à s'investir pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, si on en fait un principe de vie, on va comprendre comment Paul pouvait mettre le monde à l'envers partout où il allait. Vous n'êtes pas obligé de le dire à la figure des gens, parce que les gens vont se sentir insultés. Mais vous annoncez ce que vous avez rencontré, une personne que vous avez rencontrée. Et les gens vous menacent et tout ça, mais intérieurement, qu'est-ce que vous vous dites? « Toi, tu ne peux rien me faire que Dieu ne peut te permettre. » Je suis en train de parler de ceux qui désobéissent au Seigneur. Ça, je regrette. Il y a des promesses aussi pour ça, mais ce n'est pas ces promesses-là que je vous parle ce matin. Mais pour ceux qui marchent dans la vérité, on va le voir tantôt avec Jésus et Pilate. Tu ne peux rien me faire que Dieu ne te permet pas, parce que je suis un enfant de Dieu. Et que non seulement Jésus est mon sauveur, mais j'ai Dieu qui est mon Père, et mon Père céleste veille sur moi. Hey, tu es blindé à ce moment-là, hein? Là, tu vis vraiment dans le monde de l'invisible. Hein? Tu es vraiment dans un monde spirituel. Et là, tu dis, Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là parce que ta parole le dit, Seigneur. Et parce que je fais ce que tu me demandes de faire, Seigneur, je sais que tu es à mes côtés. Je sais que tu ne me feras pas défaut. Tu me promets que tu seras avec moi tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Et je sais que tu ne me feras pas défaut. Seigneur, je ne sais pas quoi dire aux gens que je vais rencontrer. Parce que chaque gens est différent. Mais ouvre ma bouche, Seigneur. Parle à travers ma bouche pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur, empêche-moi de parler de moi, mais permets-moi de parler de celui qui a transformé et changé ma vie. Seigneur, permets-moi de faire connaître aux gens celui qui m'a donné une espérance extraordinaire qu'il y a quelque chose après la mort et que ce quelque chose qu'il y a après la mort, eh bien, ça va durer pour l'éternité. Hey! C'est affreux de voir les gens qui se font enterrer à l'extérieur en pensant qu'ils n'ont pas plus d'avenir qu'un chien, un cheval, une vache. On est dans cette société aujourd'hui. Les gens à l'extérieur pensent qu'ils ne valent pas plus que des animaux, qu'après la mort, c'est terminé. Mais il y a une bonne nouvelle, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a une très mauvaise nouvelle pour ceux qui meurent dans leur péché. Et on se doit de l'annoncer. On se doit de ne pas faire de compromis dans notre message et d'annoncer le message tel qu'il est. Sans oublier l'amour de Dieu, c'est certain. On doit d'abord parler de la loi. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? À cause du péché, on n'a pas passé à côté. Et Paul le faisait sans compromis. Comment Paul a-t-il survécu en progressé dans sa foi dans une prison romaine? Le verset 21 nous donne la réponse, le mot « gain » qui est un terme monétaire qui signifie un bénéfice et un investissement. Quand j'annonce l'Évangile, je fais un investissement dans le royaume de Dieu. J'investis pour l'avenir dans le royaume de Dieu. C'est ce que le mot grec veut dire ici, « gain ». La mort est un gain. Oui, ce qu'il veut dire. Hey, je vais m'enrichir en mourant. Lisez l'Apocalypse. Quand les justes meurent, leurs œuvres les accompagnent, nous dit le livre de l'Apocalypse. Vos œuvres, c'est quoi? C'est ce que vous aurez fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Puisqu'il ne salue pas par les œuvres. Mais ces trésors qui vont durer pour l'éternité, c'est ce que vous avez proclamé, l'Évangile que vous aurez proclamé à des gens. Pas nécessairement qu'ils l'auront accepté, mais vous aurez proclamé l'Évangile. Au lieu de se plaindre parce qu'il était en prison, il se réjouit que même dans ses chaînes, il va expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans sa vie. Et quand il mourra, la vie merveilleuse qui est maintenant la sienne sera encore meilleure. Il en avait la certitude. Avez-vous cette certitude ce matin? Que si Dieu vous rappelle à lui, votre vie va être changée autrement qu'aujourd'hui, qu'elle va être encore meilleure. Amen. Comment Paul pouvait-il dire de telles choses? C'est parce que pour Paul, mourir, ce n'était pas la fin dans un cimetière, ce n'était pas finir dans un cimetière, mais c'était entrer dans un sanctuaire. Il savait qu'il rentrerait dans la présence de Jésus aussitôt qu'il mourrait. Et ça, c'était vraiment un gain pour lui. En quoi la mort peut-elle être un gain pour quelqu'un? Je vais vous donner trois raisons. D'abord, nous nous séparons de tout ce qu'on n'a pas besoin. Nous abandonnons le monde, la chair et le diable, et nous n'avons plus d'épreuves, plus de problèmes, plus de larmes, plus de pleurs, et nous nous séparons de nos faiblesses. Deuxièmement, nous gardons tout ce qui est important. Nous conservons notre personnalité, nous conservons notre identité et notre connaissance de tout ce qui est bien. Et troisièmement, nous obtenons ce que nous n'aurons jamais eu auparavant. Nous obtenons le ciel et nous serons toujours avec les frères et sœurs en Christ, avec les anges, avec Dieu et avec Jésus-Christ lui-même. Comment peut-on vouloir demeurer sur la terre le plus longtemps possible quand on voit ces trois choses-là qui nous sont présentées? Amen! Oui! Dans un cimetière de Montgomery en Alabama, les gens peuvent lire sur une pierre tombale l'inscription suivante. Sous les trèfles et sous les arbres, ici gît le corps de Jonathan Pease. Mais Pease n'est pas ici. C'est seulement son enveloppe charnelle qui se trouve enterrée ici. Pease est parti. Il est rentré rencontrer Dieu. C'est pas beau ce qu'un chrétien inscrive ça sur sa pierre tombale? Ah, magnifique. Je n'ai pas prié sur ma pierre tombale, je ne suis plus là, moi. C'est terminé. Je suis déjà en haut. Ce qui est là, c'est simplement l'enveloppe. C'est mon enveloppe corporelle qui recouvre mon âme, qu'on ne voit pas, Mais il est en train de se décomposer, il est en train de périr. Mais il y a un corps glorifié, un corps de ressuscité qui m'attend un jour. Avez-vous peur de la mort? Vous ne devriez pas, vous qui êtes chrétien. La mort est le véhicule qui nous amène à la maison du Père. Un chrétien est immortel jusqu'à ce que son travail soit terminé sur la terre. Pensez à cela pendant un instant. La mort ne peut pas vous toucher tant et aussi longtemps que Dieu ne l'a pas décidé. Vous ne pouvez pas mourir et vous ne mourrez pas jusqu'à ce que le moment fixé par Dieu soit arrivé. Si Dieu est Dieu, vous vivrez aussi longtemps que Dieu le veut. Et vous rentrerez par la suite dans la demeure céleste. Jésus a dit, je m'en vais, je retourne auprès du Père, vous préparez une demeure extraordinaire. Moi qui prends du temps à réparer ma maison, à rénover ma maison, par rapport à la demeure que Jésus est en train de me préparer, ma demeure, elle va ressembler à un hangar. Je ne peux pas m'imaginer ce qu'il est en train de nous préparer. La mienne, elle s'effrite au fil des années. J'espère que la vôtre, c'est la même chose. Elle s'effrite, elle a besoin de peinture. Elle a besoin de réparation, elle a besoin de rénovation. Mais dans le ciel, tout ce qui est dans le ciel est éternel. Il n'y a rien qui dépérit. Tout ce qui est construit dans le ciel, c'est là pour durer pour l'éternité. Il n'y aura pas de changement. Amen. De la même manière, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4:7, « J'ai achevé la course. » Il savait que le moment de sa mort, l'endroit et les circonstances dans lesquelles il se trouvait étaient dans les mains de Dieu. Il dit, « J'ai achevé ma course. Je ne peux plus prolonger ma vie trop longtemps. Le Seigneur m'a averti. J'ai achevé ma course. Le Seigneur va me rappeler à lui très bientôt. » Et Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait à glorifier le Seigneur. Et il donnait des instructions à Timothée, qui est celui qui va remplacer Paul quand Paul mourra. Permettez-moi de faire deux applications basées sur Philippiens 1:21. Mourir de façon prématurée pour un enfant de Dieu n'existe pas. On peut en venir à penser ainsi lorsqu'on se retrouve face à la mort d'un enfant, mais c'est seulement parce que nous ne pouvons pas voir les choses à partir du point de vue de Dieu. Deuxièmement, notre seule tâche dans la vie, c'est de faire la volonté de Dieu jusqu'au moment où il nous rappellera à lui. Puisque nous ne pouvons pas connaître l'avenir, il est inutile de perdre notre temps de nous inquiéter à quel moment et à quel endroit nous allons mourir. Le mieux, c'est de laisser tout cela dans les mains de Dieu, d'investir nos efforts dans la cause de Christ et de nous appliquer à faire sa volonté au quotidien. Verset 22-23, Paul dit, « Mais si en continuant à vivre, je peux encore accomplir une œuvre nous utile, alors je ne sais pas quoi choisir. Je me sentirai des deux côtés. Je désire quitter cette vie pour être avec le Christ, qui serait vraiment préférable. » Et c'est vrai que ça serait préférable. Mais il va rajouter d'autres choses après. Et certaines personnes veulent mourir parce qu'elles détestent cette vie, et pourtant Paul était prêt et désirait mourir, parce qu'il avait hâte d'aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Pour Paul, la mort d'un chrétien, frères et sœurs, n'était rien d'autre qu'un changement d'adresse. C'est bien ça, hein? Vous mourrez, vous dites à quelqu'un de coller sur votre boîte, « J'ai changé d'adresse, maintenant j'habite au ciel. » Pour Paul, c'était ça, hein? Fini mes problèmes, fini mes soucis, fini les persécutions, fini les moqueries, fini les larmes, fini les pleurs. J'ai changé d'adresse. Pourtant, en attendant, il était prêt à demeurer sur la terre s'il pouvait faire une différence dans la vie des gens. C'était la seule raison qui permettait à Paul de vouloir demeurer sur la terre. Si je peux apporter des changements dans la vie des gens, eh bien, gloire à Dieu, je vais rester. Rappelez-vous qu'il y a seulement deux choses qui dureront éternellement. Jésus dit la parole de Dieu et les gens. On sait qu'il y aura une résurrection des justes, une résurrection des injustes à la fin des temps. Ce sont les deux seules choses qui vont rester. La parole de Dieu, la terre et le ciel passeront, mais ma parole durera éternellement, dit Jésus, et les gens, au jugement dernier. La parole de Dieu et les gens, tout le reste disparaîtra. Si vous voulez que votre vie compte, alors bâtissez-la autour de ces deux choses, la parole de Dieu et les gens. Verset 24-26, « Mais il est beaucoup plus important à cause de vous que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai, je sais que je demeurerai avec vous tous. » Pour vous aider à progresser, à être joyeux dans la foi. Oui, je veux rester avec vous. Oui, je veux faire plusieurs années encore avec vous, mais c'est pour vous aider à grandir dans votre foi. Pour vous aider à découvrir davantage la personne de Jésus-Christ. Tous les trésors qui se cachent dans la personne de Jésus-Christ et que vous n'avez pas encore connus et que vous n'avez pas encore reçus parce que vous les ignorez. Mais mon désir, c'est de faire en sorte que vous puissiez progresser et être joyeux dans la joie. Ainsi, quand je me trouverai de nouveau près de vous, vous aurez à cause de moi d'autant plus sujet d'être fier dans votre vie en Jésus-Christ. Et là, Paul dit, c'est clair, hein, il conclut que le temps de mourir n'était pas encore arrivé pour lui et qu'il s'en sortirait pour venir en aide aux chrétiens de Philippe, même s'il préférait mourir afin de pouvoir être avec Jésus-Christ. Il a mis de côté ce qu'il préférait pour le bien de son prochain, pour le bien des autres. Voici trois avantages que retirerait Paul en reportant son propre départ ici-bas. Verset 21, il expérimenterait la vie de Christ. Deuxièmement, il accomplirait une œuvre utile en annonçant l'Évangile. Verset 22. Et versets 24 à 26, troisièmement, il pourrait aider les chrétiens à progresser spirituellement. Et frères et sœurs, ça, ce n'est pas donné au conseil d'église, ce n'est pas donné juste aux pasteurs, ce n'est pas donné juste aux évangélistes. Entre frères et sœurs, on est là pour aider l'autre à progresser dans sa foi, à partager les victoires qu'on a en Jésus-Christ, à partager les moments difficiles qu'on vit, moi aussi, à aller dire, écoute, tu vis ce moment-là, moi aussi je l'ai vécu un jour, et voici comment j'ai eu la victoire en Jésus-Christ, mon frère et ma sœur. Dieu veut faire en sorte que les frères et sœurs en Christ deviennent des encourageurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu veut que vous soyez des encourageurs. Le monde est découragé et ils ont besoin d'être encouragés. Et nous avons le message qui encourage les gens. Il n'y en a pas d'autre. J'espère que c'est votre conviction dans votre tête. Il n'y a aucune autre philosophie qui peut ramener les gens les deux pieds sur terre et faire en sorte de transformer leur vie que la personne de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Les gens se créent toutes sortes de sauveurs à l'extérieur. Ils sont toujours déçus. Il y en a un seul qui ne nous décevra jamais, et c'est Jésus-Christ. En d'autres mots, Paul est en train de dire ici, de toute façon, je ne peux pas être perdant. Si je meurs, je suis gagnant, et si je vis, je suis encore gagnant. Hey, c'est une belle philosophie, ça. Comment pouvez-vous arrêter un homme comme ça? Impossible. Allez-y, tuez-le, il mourra avec un sourire sur son visage. Mettez-le en prison, il va annoncer l'Évangile aux gardes. Enfermez-le pour la nuit, et en isolement, il va commencer à chanter « Grâce infinie ». Lâchez-le dans la ville, il va parler aux gens de Jésus qu'il va rencontrer, il va implanter une église dans le prochain village. Là, lapidez-le, il va utiliser les pierres pour construire un sanctuaire. C'était Paul. Je suis en train de vous dire qu'il assommait les gens avec l'Évangile, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Mais si on manifeste la gloire, si Dieu manifeste sa gloire à travers ses enfants, les gens vont vouloir savoir ce que vous avez qu'ils n'ont pas. Vous n'aurez pas besoin de trouver toutes sortes de méthodes pour essayer d'aller les chercher, de leur parler de Jésus. Je le répète pour les nouveaux. C'est ce qui m'a attiré à l'Évangile. Le premier que j'ai rencontré, tous les deux, sans qu'on se regarde, ma femme et moi, quand on est sortis, on s'est dit, ce couple-là, ils ont ce qu'on cherche depuis des années. Et là, on a commencé à être attiré. On a commencé à être végétarien, purification du corps, hein, manger des légumes et laisser tomber la viande, manger ci et ça. Je ne savais pas, on était en recherche spirituelle. Mais Dieu connaissait notre désespoir. Oui, on sortait les week-ends des restaurants, bouteilles de vin, les repas. Ah oui! Mais quand le vin avait fait son effet, quand le repas avait été digéré le lendemain, hein, tout ce que je gagnais souvent, c'était un mal de tête. Mais en dehors de ça, je n'étais pas plus heureux. On n'avait pas de dette. Pourquoi je devais m'inquiéter? Mais il y avait un vide en dedans de moi que ce monde ne pouvait pas combler à travers ses activités. La même chose pour ma femme. Et on a rencontré ce couple. Et Dieu a utilisé ce couple pour nous dire, écoute, ce que tu cherches maintenant, j'ai entendu, je vois votre désespoir. Et ce que vous cherchez se trouve à travers ces deux personnes, ils vont vous l'annoncer. Et ça a bouleversé nos vies. À partir de ce couple, on était appelé à rencontrer Jésus-Christ. Et on a tout abandonné. On avait un commerce, on était en train d'établir des franchises à droite et à gauche. Et aussitôt qu'on a découvert Jésus, on a vu ça vraiment comme de la boue. On a tout laissé tomber. Fini les franchises. Fini l'argent. On venait de trouver un trésor. Frères et sœurs, les gens cherchent ce trésor dans le monde. Et vous, en tant qu'encourageur, vous pouvez leur donner ce trésor. Il suffit que vous y croyez. Et que c'est uniquement à travers vous que Dieu veut, qu'il veut partager son trésor, qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque temps, je regardais la télé, je suis tombé sur une interview avec le comédien Alan King, sur une chaîne américaine. C'est un humoriste qui est dans le métier depuis des années, qui est âgé de plus de 70 ans. L'intervieweur lui demanda comment il pouvait avoir continuellement une attitude aussi optimiste. Il répondit avec son humour habituel, « Je me dis que tant et aussi longtemps que mes pieds sont sur la terre, je n'ai aucune raison de me plaindre. » Il avait raison, mais pour Paul, il y avait quelque chose de plus. Que ce soit sur la terre ou sous la terre, il demeurait optimiste. S'il se trouvait sur la terre ferme, il annonçait l'Évangile et il enseignait aux chrétiens. S'il se trouvait sous terre, aucun problème, il serait avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre au change. J'espère que c'est votre conviction plus profonde ce matin. Ouais. Vous êtes un enfant de Dieu. Il n'y a personne qui peut vous toucher, qui peut faire quoi que ce soit à votre vie si Dieu ne le permet pas. Cela nous ramène aux 5 jeunes hommes qui ont donné leur vie pour atteindre les indigènes au cas en 1956. Excusez-moi. À cette époque, cela semblait avoir été une tragédie sans aucun fruit durable pour l'Évangile. Mais que s'est-il vraiment passé par la suite? En quelques années, plus de 1000 missionnaires se sont rendus dans cette région suite à leur martyre. Rapidement, les instituts bibliques indigènes en Équateur virent arriver des chrétiens autochtones désireux d'apprendre la parole de Dieu. Rachel Saint et Elizabeth Elliott, veuves de Nate Saint et de Jim Elliott, se rendirent dans un village, Oka, et commencèrent la traduction de la Bible dans leur langue. 9 ans plus tard, 2 des Indiens Oka qui avaient participé à l'assassinat des 5 missionnaires en 1956 reçurent Jésus-Christ comme sauveur et seigneur et baptisèrent Cathy et Steve Saint par la suite, la fille et le fils de Nate Saint. Une église florissante fut établie parmi les Indiens Oka et les autres tribus avoisinantes. En 1995-95, suite à la demande des Indiens Oka, Steve Saint retourna vivre avec eux, c'est-à-dire le fils d'un de ceux qui avaient été tués. L'histoire continue et continue encore. Ces hommes n'avaient aucune idée que des milliers de vies seraient touchées à cause de leur mort survenue sur une plage dans une forêt éloignée. Ils savaient seulement que Dieu les avait appelés chez les Indiens Oka et ils ont obéi. C'est sans aucun doute une partie du fruit dont Paul parle dans notre texte ce matin. Supposons que nous pourrions parler à ces 5 hommes aujourd'hui et que nous pourrions leur demander « Est-ce que cela valait la peine de faire ce que vous avez fait? » Que pensez-vous qu'ils diraient? Je pense que je connais la réponse, ce serait la même réponse que Paul a donnée. Notre désir, c'était de glorifier Christ et d'annoncer l'Évangile pour lui. Que nous le fassions en étant vivants ou en étant morts, cela n'a aucune différence pour nous. Comme Paul, il savait que peu importe qu'il vivait, peu importe qu'il mourait, ils étaient gagnants. Une dernière histoire en terminant. En 1858, un jeune homme qui s'appelait John G. Patton ressentit l'appel de Dieu pour quitter son ministère à Glasgow, en Écosse, et aller comme missionnaire dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, dans le Pacifique Sud. À cette époque, les voyages missionnaires étaient accueillis avec dédain et beaucoup d'opposition, en partie à cause du grand danger que couraient ceux qui annonçaient l'Évangile aux personnes qui étaient considérées comme des sauvages. Un vieux monsieur dit à John Patton, « Vous serez mangé par les cannibales, jeune homme. » Monsieur Dixon, répondit Patton, « Vous êtes maintenant avancé en âge et votre perspective d'avenir, c'est que bientôt vous vous retrouverez dans une fosse. Vous serez mangé, vous, par les vers. » Je vous avoue que cela ne me dérange pas si je peux vivre ou mourir en servant et en honorant le Seigneur Jésus, et encore moins si je suis dévoré par les vers ou par les cannibales. Car lorsque Jésus-Christ reviendra, je sais que je reviendrai à la vie et qu'il me donnera un nouveau corps, un corps glorifié, qui sera semblable au sien. Tourne avec moi dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 11. Rapidement, j'ai dit que je terminais, donc rapidement, pas plus que 5 minutes. Rappelez-vous le contexte. Hein? Jésus est à l'extérieur de la ville, on vient lui annoncer que Lazare, son ami, est malade. Et Jésus, plutôt que de se dépêcher pour aller trouver Lazare, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps, il attend. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il arrive sur les lieux, Lazare, il est mort. Et les gens sont découragés. Les gens sont découragés parce que ils n'ont pas de solution face à la mort. Et Jésus, qui est un encourageur incroyable, qu'est-ce qu'il vient dire? Verset 21, Marthe dit à Jésus, chapitre 11, verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie. » Marthe répondit, « Je sais qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts au dernier jour, Jésus. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui croit, et celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez cela ce matin? Jésus a prêché qu'il y avait une vie après la mort. Il a été le premier à revenir de la mort à la vie. S'il n'y avait rien eu de l'autre côté, il ne serait jamais revenu. Il était mort. La barrière était là. Mais il traverse, il revient pour nous dire, écoutez, ce que je vous ai annoncé, c'est vrai. Non seulement il y a une vie après la mort, mais je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui donne une nouvelle vie. C'est moi qui va vous ramener à la vie. Par la puissance que j'ai. Par la puissance qui m'est accordée sur toute chose. Voilà pourquoi quand on rencontre Jésus-Christ, ça bouleverse, ça transforme une vie. Personne ne peut vous toucher. J'espère que vous allez partir et que c'est une réalité dans vos vies ce matin. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit si Dieu ne le permet pas. Une vie est vite passée, mais c'est seulement ce qui est fait pour Christ qui va durer. Frères et sœurs, que représente la mort pour vous? Vous ne pourrez jamais dire « mourir m'est un gain », à moins que vous puissiez également dire « car Christ est ma vie ». Et si vous ne pouvez pas vivre, pas dire « vivre c'est Christ », comment pouvez-vous être certain que mourir est un gain pour vous? Nous revenons toujours à Jésus, n'est-ce pas? Si vous avez peur de mourir, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas Jésus. Comment devrions-nous affronter la mort? Pas avec mépris, ni dans le désespoir, mais avec la confiance d'un enfant. Il y a 3-4 semaines, je pense que c'est Mathieu ou Sam, il y avait une pile de chaises en bas dans le sous-sol, et ça doit être Mathieu, parce que je n'aurais pas été assez fort pour lever Sam. J'ai pris Mathieu, puis je l'ai mis sur la pile de chaises. Mathieu ne s'est même pas posé la question si je l'attraperais. Heureusement que j'ai gardé mes yeux sur lui. Il s'est lancé, lui, là, sur moi. Il ne s'est pas dit, il va s'enlever. Il ne s'est pas dit, il va-tu m'attraper? Mathieu, il était certain. Il était certain que si je l'avais mis là, c'est parce que je devais l'attraper. Mathieu, vous savez ce qu'il y a, frères et sœurs? La foi d'un enfant. La foi d'un enfant. Et des fois, c'est ce qui nous manque. On raisonne tellement les Écritures. Oui, mais c'est vrai que la Bible dit ça, mais qui dit que c'est encore bon pour aujourd'hui? Qui dit que c'est valable pour moi? Vous dites quelque chose à un enfant, c'est une éponge. L'émission Bob l'éponge, c'est une éponge. Il prend, il ne se pose pas de questions. Papa l'a dit, c'est vrai. C'est pas ça doit être vrai, c'est vrai. Maman l'a dit, c'est vrai. C'est en vieillissant que le monde sème le doute dans notre esprit. On en arrive à un point, à un certain âge, qu'on se dit, finalement, ce que maman et papa m'ont annoncé, ils ne connaissaient rien. Et là, nos jeunes, ils font leurs propres expériences par eux-mêmes, puis ils se cassent les dents. Et quand on est mort, ils disent, c'est vrai, papa et maman avaient bien raison. Moi, j'aimerais donc revoir mes parents simplement pour leur dire ça. Comment j'étais un imbécile de ne pas croire l'enseignement qu'ils m'ont donné. Comment j'ai été idiot de remettre en question ce qu'ils m'ont, tout le temps qu'ils ont pris, tout le temps qu'ils ont investi dans ma vie. Ils m'ont dit, Jacques, marche comme ça, Jacques, va dans cette direction-là, Jacques. Et moi, je disais, j'avais sorti avec une fille, ma mère avait dit, ce genre qui n'a rien de bon là-dedans. Maman, tu ne connais pas ça, toi. Voyons. Tu ne connais pas ça. Tu n'es jamais sorti. Oui, mais ton temps, c'est pas mon temps. Non, elle avait bien raison, Oui. C'était ma première peine d'amour. Ça m'a fait mal, celle-là, Oui. Elle m'a fait saigner, cette fille-là, quoi. Oui. Ma mère ne connaissait rien. Mon père ne connaissait rien. Ce n'était pas des parents parfaits. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, je suis convaincu que c'était mon bonheur qui visait. Et je n'aurais jamais dû mettre en question leur enseignement. De la même façon, l'enseignement de l'Évangile, c'est d'être convaincu que Dieu, c'est votre bonheur qui vise, et de se glorifier à travers vous. On ne peut pas remettre en question l'enseignement que le Seigneur Jésus nous a laissé. Le Seigneur, il veut se glorifier à travers nous. parce qu'il sait que quand on est au service de son royaume, on est heureux. On est là où on doit être. Et cette paix, cette joie, pas juste dans notre cœur, elle transpire et elle va atteindre le cœur des autres qui sont tristes, qui sont amers, qui ont un esprit de vengeance, qui sont découragés face à la vie. Frères et sœurs, Paul, c'était un encourageur extraordinaire. Ce qui meurt, il était gagnant. Qu'il reste en vie, il était gagnant. Que ça puisse être profondément, mais profondément s'ancré en nous ce matin. Et qu'on puisse dire, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire dans ma vie. Amen. Vous êtes à vous lever, on va chanter un cantique ce matin.